Si vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors ce matin, nous n'allons pas revenir sur la manifestation du 15 mars. La manif annuelle contre la brutalité policière n'a pas eu lieu, ou presque. Tout était mis sur place pour interdire sa marche. Et comment déclarer quelques jours d'avance illégale cette manifestation prévue une fois chaque année pour dénoncer la brutalité policière n'a pas pu jouir tout simplement de son plein droit et dire non à la brutalité policière. Alors je n'aurai pas d'autre chose à ajouter sinon de dire au point, je veux dire justement, au petit bulldozer de la ville de Montréal, vous aurez pu, monsieur le maire, faire tout ce qui était de votre pouvoir pour protéger et assurer la continuité de cette manifestation pour le bien de l'intérêt public. Une seule manifestation, et je dis bien, une seule manifestation annuelle contre la brutalité policière est une contribution majeure dans l'espoir de ralentir le pas de l'abus de l'autorité policière. Un abus incontestable par l'avis de la majorité de la population, interdire cette manifestation contre la brutalité policière est tenter, d'ailleurs avec un certain succès abusif, de l'empêcher à dénoncer la brutalité policière, à mon avis, est une grande erreur qui ne fait que grossir la connerie et la bêtise de l'abus de pouvoir dans les rangs des corps policiers. Alors bref, la manifestation du 15 mars, journée internationale contre la brutalité policière, est devenue au Québec synonyme d'arrestation, d'humiliation devant les tribunaux. Une partie du plan a réussi, crier de la crainte et de la peur en décourageant les participants pour un certain ou cet événement. Maintenant, voilà, et pourtant, le petit bulldozer de la ville de Montréal avait tout intérêt de protéger, appuyer cette manifestation annuelle contre la brutalité policière, pour que l'intérêt public soit mieux servi, mais cette dernière ne semble pas être une priorité pour M. le maire. Alors nous avons également tenté de rejoindre les membres des COBP, le collectif opposé à la brutalité policière, les organisateurs de cette manifestation, pour les inviter à réagir, mais sans succès. Imaginez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, tous ces militants de COBP ne veulent pas donner signe de vie, de crainte, de représailles, d'intimidation, d'harcèlement de la part de la SPVM. Alors, ils ont préféré couper tous les ponts. Physiquement, ils sont injoignables et ils n'ont plus confiance ni dans les médias et encore moins aux politiciens. Alors voilà un visage de la démocratie à la québécoise. Bref, ces quelques mots en voie d'explosion que je tenais à expulser de ma mémoire. Je trouve ça, cette manœuvre-là, justement, dégueulasse et contraire au peu qui reste de notre démocratie. Maintenant, chères auditrices, chers auditeurs, passons à un autre sujet qui nous préoccupe aussi, les injustices et les abus du pouvoir sous le toit de la régie du logement à travers le Québec. Vraisemblablement, là aussi, il y a un méchant problème, l'abus et l'injustice à l'endroit des locataires est omniprésent. Les témoins et les victimes à cet effet sont nombreuses. Le regroupement des comités logement et associations de locataires de Québec tire l'alarme et parle de la préparation d'un dossier. Il y a un dossier qui le nomme un dossier noir qui dévoile l'arbitraire et l'injustice qui se passe derrière les murs clos de la régie de logement. Alors les régisseurs qui portent le devoir d'assurer et soutenir la confiance des publics, malheureusement, certains d'entre eux font fausse route à leur dignité, intégrité, diligence, et défendre l'intérêt supérieur de la justice n'est qu'une farce à ne plus retenir. Alors je suis resté aussi bouche bée quand j'ai vu dernièrement un régisseur de la régie de logement au Stade olympique de Montréal qui, pour favoriser une personne, il a inventé une date fausse et mensongère, et autour de cette date, il a conclu une décision arbitraire basée sur cette date sortie de nulle part, et malgré que le locataire ait demandé une certification, il a demandé aussi de rectifier, et les deux parties aussi étaient d'accord que la date inventée par le régisseur n'a jamais existé, celui-ci avait maintenu une décision flagrante délit injuste. Je n'ai jamais cru que ça peut aller jusqu'à ce point de non-retour dans un tribunal comme celui de la régie de logement. Présentement, Quand une plainte est logée au Conseil de la justice administrative, on attend s'il y aura une enquête qui sera déclenchée à cet effet, et je vous promets de vous revenir avec cette ordure de régisseur qui se pense au-dessus de toutes les lois. Alors, il y a un dossier noir, un côté obscur, inquiétant, qui nous oblige de s'interroger sur certains régisseurs qui font défaut au sein de cette justice administrative de la Régie du logement au Québec. Et je dis bien, il devient aussi urgent d'en parler et de donner la parole aux organismes qui œuvrent pour la défense des droits des locataires. Il y a de ce côté un problème et un vrai problème au Québec. Apparemment, il faut être victime pour s'en apercevoir. Les locataires victimes derrière les murs de la Régie de logement devront être hautement sensibilisés afin de mieux se défendre devant ces régisseurs qui profitent de la vulnérabilité des locataires afin d'abuser, violer l'esprit même de la justice sans reproche aucun. Alors ce matin, nous allons entendre les voix de quelques représentants de ces organismes et nous avons également dans le studio un locataire qui vient témoigner l'enfer de l'arbitraire et ses conséquences sur la santé et la vie des victimes locataires. Voilà, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer leur abus de pouvoir. Je vous invite, chers auditrices, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Les injustices et les abus de pouvoir derrière les murs de la Régie de logement, les régisseurs font honte à la fonction de la justice au Québec. Merci à l'écoute.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup d'héros. Des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et les portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène, un baf obscène est à la lune.
Oui, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Et aujourd'hui, on a un sujet particulier aussi. On parle ici, justement, les injustices et les abus de pouvoir derrière les murs de la régie de logement. Les régisseurs font honte à la fonction de la justice au Québec. Et j'ai avec moi directement un locataire qui est victime aussi, malheureusement, de l'arbitraire de la régie de logement. Bonjour Monsieur Vincent, comment ça va?
Merci, bonjour, ça va.
Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir aujourd'hui témoigner sur ce plateau. Alors peut-être la première question, avez-vous déjà eu des problèmes avec la régie de logement avant?
Non.
Vous n'avez jamais fait affaire avec la régie de logement avant?
Pas avant cette incidence.
Pas cet incident-là. Alors expliquez-nous, là, pour les gens qui vous écoutent ce matin, vous étiez allé, vous avez loué un logement, et c'était au mois d'octobre, alors vous rentrez, le propriétaire vous a accueilli avec les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, donc ça a été bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une fois il est parti, là, quand vous fermez les portes et vous commencez à s'installer, là, qu'est-ce que vous avez découvert?
Une fois rentré dans le logement,
oui.
Il commençait à faire froid, c'était vers le début de novembre.
Oui.
Puis,
malgré que vous chauffez, il faisait froid.
Ben, c'était le temps tel, c'était le temps de l'année. Le mois de novembre, ça commence à faire un peu froid.
Fait oui. Que,
on est moins porté à garder nos fenêtres ouvertes ou nos portes ouvertes, sûrement.
Oui.
Fait que, tu sais, un peu de chauffage, mais tu sais, pas trop. À mesure que ça devenait plus froid, vers le milieu de novembre, là, le chauffage était allumé tout le temps, maximum. Puis, il y avait une senteur dans le logement qui était vraiment très, très troublant. Dès quelques jours qu'on a déménagé dedans, on avait des mal de tête, on vomissait, il y avait on était malade tout le temps, on avait de la diarrhée, là. C'était vraiment...
C'était dû à la senteur, là, que vous sentez?
La senteur, puis la moisissure, il y avait des...
Mais la senteur, là, ça vient d'où, là, la senteur?
Mais on a fait inspecter les lieux, puis s'il y avait de la moisissure partout dans les sous-sols, dans les murs en haut, certains murs exposés à...
Et ça, vous ne l'avez pas observé quand vous êtes rentré?
Mais non, tout était ouvert, il y avait un bel soleil, il faisait chaud.
Entre les murs, c'est vraiment pourri, quoi.
Mais il y avait des choses que il était pas à l'œil d'une personne qui ne connaît rien dans les bâtiments.
Exact, ouais.
Moi, j'ai regardé les planchers, ce qu'il y avait dedans comme chambre, comme espace, comme fixture de lumière. Mais j'ai pas commencé à faire des inspections.
Alors, vous parlez de la moisissure. Vous parlez aussi. Vous avez remarqué directement que les portes sont un petit peu. Il y a de la lumière qui passe. C'est-à-dire qu'il y a.
Mais c'est ça, quand les portes étaient fermées, puis faisait froid, puis on essaie de chauffer la place. On réussit pas à monter la température en haut de 15-16 degrés. C'était pas logique parce qu'il y avait une fournaise à huile en bas qui était supposée de fournir le chauffage facilement.
Oui.
Fait que, en tout cas, il y avait. Quand la fournaise était allumée, on avait un senteur
d'exhaust. C'est un autre problème encore majeur.
Encore majeur, oui. Oui. Puis,
de la fournaise, la senteur.
La fournaise même.
C'est à l'huile ou à quoi ça?
À l'huile.
À l'huile, OK.
Il y avait une... l'huile se brûlait dans la chambre de combustion.
Oui.
Puis cette chambre-là, d'après ce que l'inspecteur nous a expliqué, est supposée d'être scellée. La combustion n'est pas supposée de sortir de la chambre de combustion et puis être envoyée dans les pièces là, par le système de distribution d'air. Là.
Oui.
Il y a des tuyaux qui envoient l'air.
Alors vous respirez cet air-là, c'est ça?
Oui. Puis en plus, il y avait aussi... constater que la tank qui contenait l'huile à chauffage avait coulé, Puis le sol, dans le sous-sol, était contaminé avec de l'huile de chauffage. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'une fois que tu sens ça, c'est comme l'essence, là. C'est ouais, l'essence c'est... non purifiée. Oui, ouais. Puis, en plus, il y avait de la moisissure, il faisait froid. Ouais. On a aussi, le toit coulait. Après qu'on a rentré dedans, il a mouillé une couple de fois, là. Puis, il y avait de l'eau qui rentrait dans la cuisine, sur les comptoirs, à terre. Puis, c'était un cauchemar à la place.
Vous découvrez qu'il y a un vrai problème.
Alors, suite à ça, il y avait des crottes de rats partout sur les planchers qui ont
poigné. Vous n'avez pas constaté la première fois que vous êtes rentré?
Ben, c'était entre les craques. Oui. Il y avait une poêle pour cuisiner. Là. Oui. On a soulevé le toit pour essayer de la mettre dehors parce qu'il a laissé toutes ses vidanges dans la. Il était supposé de tout nettoyer, peinturer, tout. Oui. Il n'a rien fait. Puis on a ouvert ça pour la déplacer, puis c'était plein de crottes de rats. Puis en haut, dans le grenier, oui. Aussi, là, il y avait une colonie de souris, puis des rats qui habitaient là-dedans.
Alors vous avez vu ça, là, deux, trois, je ne sais pas combien de jours, vous avez commencé à se rendre compte vraiment qu'il y a un problème, il y a un problème sérieux, et surtout... vis-à-vis à votre santé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé contacter la régie de logement?
Non, avant tout, j'ai téléphoné au propriétaire pour essayer de régler ça d'une façon amiable, à l'amicale.
Là, vous allez dire quoi, là? Qu'est-ce qu'il va... Il va vous donner notre appartement, quoi?
Il y a-tu de quoi qu'on peut faire, au moins?
Trouver une solution à ça.
C'est ça. Au moins, c'est enlever le fait qu'on est malade.
C'est ça.
Il faut nettoyer la place. Il faut faire quelque chose, décontaminer. Mais donnez-nous quelques options, tu sais, quelques choix qu'on peut pour éviter.
Vous avez communiqué avec le propriétaire pour trouver justement un terrain d'entente pour régler ce problème-là.
Pour éviter d'aller dans les systèmes juridiques.
Mais c'est parce que le problème, c'est sérieux aussi. C'est ça, comment vous pouvez dormir et habiter dans un appartement où vous sentez et la respiration, vous respirez quand même de l'huile, je ne sais pas, du brûlé.
De la combustion dans une fournaise d'huile. C'était pas pagé. Il y avait, en descendant en bas, en faisant inspecter les lieux, parce que la ville n'avait pas d'inspecteur municipal. Fait qu'il nous a fallu trouver quelqu'un indépendant, accrédité, la RBQ, puis toutes ces licences.
Avant d'arriver à l'inspecteur, là, vous avez communiqué avec le propriétaire, vous avez demandé...
Après, on a été voir le registre du logement.
Après, vous avez logement, vous avez demandé quelle procédure qu'on peut suivre, quel est notre droit, c'est ça? Et qu'est-ce qu'ils vous ont conseillé de faire? C'est eux qui vous ont conseillé d'avoir un inspecteur?
Si la ville en a pas, il faut vraiment, si le propriétaire n'est pas d'accord de faire de quoi, volontairement, parce que c'est dans ses intérêts, puis c'est la loi en plus.
Pas parce que justement, quand ils disent la loi, parce que je pense, devant moi, j'ai l'article 1915, c'est ça?
Oui.
Alors, ils disent que le locataire peut abandonner son logement s'il devient impropre à l'habitation. Et donc, il est alors tenu d'aviser le locataire de l'état du logement avant d'abandonner dans les 10 jours qui suivent.
C'est ça.
Est-ce que vous avez respecter cette thèse?
Mais sûrement, oui. On a tout fait pour éviter de
encore
se
pire
rendre...
que ça. Vous avez appelé un inspecteur pour venir faire un rapport sur l'état de l'état du lieu. Et lui-même, il vous a conseillé
de sortir,
de partir.
Oui, partir.
Alors,
parce que vous n'avez pas le temps. C'est l'hiver, là, tout est fermé. Vous êtes dans une place qui est tout enfermée. Puis c'est très insalubre. Puis terriblement mauvais pour la santé. Il y avait de l'amiante friable, là, sec, qui était circulée dans la maison par rapport que les conduites de chauffage étaient couvertes avec des morceaux de papier d'amiante, là, puis c'était comme de la poudre. En jetant l'air chaud dans la maison, ces petites poussières d'amiante circulaient aussi en même temps.
Le rapport d'inspecteur que vous avez payé de votre proche, j'imagine.
Oui, parce que la municipalité...
Et vous avez avisé le propriétaire, vous l'avez écrit une lettre comme quoi, écoutez, là, on va abandonner le lieu, voilà les motifs, d'ailleurs, il était au courant.
C'est lui qui nous a dit de sortir, parce qu'il n'était pas intéressé à dépenser le moindre sou pour faire des réparations. Il dit, allez-vous-en, moi, j'ai pas besoin de locataire.
Et vous avez quand même avisé le logement. Et vous avez suivi à la règle toutes les étapes, c'est ça. Alors parlez-moi maintenant, une fois que vous êtes parti, ce logement-là, le propriétaire, il va vous poursuivre pour payer les 3 mois de... pénalité, c'est ça?
On a quitté les lieux en pensant que, ben, au moins, là, on va essayer. On a payé deux fois pour déménager. On a investi des centaines puis des centaines de dollars pour essayer de mettre la place vivable.
Ah, vous avez mis de l'argent pour réparer un petit
peu? Oui. Il y avait des vitres brisées. La toilette n'était pas vivable. Il manquait. On a essayé de faire notre possible, de rester là pour acheter un peu de temps, pour lui donner le temps de faire les réparations. Mais on a vu que c'était pas
Vous êtes resté combien de temps dans cet appartement-là,
monsieur? On a resté trois mois de temps. Trois mois et six jours.
Mais comment vous avez pu quand même supporter l'odeur aussi, parce qu'il y avait une odeur qui était
bizarre. Je te le dis, on a été malade tous les pour quasiment deux mois et demi de temps, là, les mal de tête, le vomissement, la diarrhée, on était toujours malade. On réussissait pas à se reprendre, parce que même si on était malade par rapport à, je sais pas, un virus ou quelque chose, un couple de semaines, trois, quatre semaines, là, tu commences à te sentir mieux.
Alors, vous avez suivi à la règle, comme vous l'avez bien dit, les étapes. Il y a la règle, la loi, là, il dit, là, il y a un article 1915 qui dit complètement que vous avez le droit d'abandonner en avisant le propriétaire. Vous avez fait ça. Vous avez encore apporté un inspecteur sur le lieu, et un inspecteur, pas n'importe quel inspecteur, là, un inspecteur...
Très, très accrédité. Là. Il était là pour établir les règlements au niveau fédéral, puis provincial.
Même, vous m'avez cité, je pense que même quand il est rentré, lui-même, il n'a pas pu rester parce que l'odeur, ça l'a incommodé.
Il a été obligé de sortir pour essayer de
prendre de l'air. Alors maintenant, vous partez. Vous êtes parti, vous avez quitté
On est parti. Avant les 10 jours, j'ai téléphoné le propriétaire en lui disant que les lieux étaient vides, puis j'avais ses clés, puis je voulais que lui inspecte les lieux pour être sûr qu'on n'avait pas endommagé rien.
Quoi que ce soit.
Puis
oui.
Que tout était à sa satisfaction. Il y avait assez de bulles de chauffage dans la maison pour que la tuyauterie ne gèle pas. Tout était. Puis il est venu là, il a constaté tout. Il a pris ses clés, il m'a donné un reçu, puis quelques semaines après, il nous amène au tribunal régie du logement. Puis on était déjà ménagé. On s'est rendu compte qu'on avait une audition deux jours avant la date. Fait qu'on a été tout de suite au régie du logement pour demander un délai, pour au moins avoir le temps
préparation,
de savoir quoi faire.
Vous avez déjà eu votre rapport d'inspection, vous avez dans les mains et tout.
Oui.
Vous avez appelé l'inspecteur pour témoigner à l'audience?
La première audience, on a eu deux jours de temps pour se présenter. On a essayé de se faire donner un délai, mais ça ne nous a pas été accordé. Fait que là, on s'est présenté là avec l'inspection puis avec la vérité. Puis on pensait que le régisseur, au moins, aurait pris en considération la situation en telle.
Oui.
Puis... c'était pas le cas.
Est-ce que voulez-vous nous dire aussi, parce que ça c'est aussi grave, quand le régisseur, vous êtes rentré pour la première fois à la salle d'audience, le régisseur, il vous regarde, il regarde la partie adverse.
Mm-hmm. Et il se met à jaser avec comme une
jaser, ses connaissances.
Oui, c'est comme c'était
bonjour,
des amis.
Bonjour monsieur, on ne va pas citer le nom parce que là, on attend un petit peu, mais quand même il connaissait la personne.
Oui.
Directement. Oui. Alors il tourne vers vous là, déjà directement, lève votre casquette, blablabla.
Oui,
quel sentiment vous avez eu déjà directement une fois devant le régisseur?
Comme si c'était quelque chose qui a été dans le minimum, au moins les deux parties se connaissaient, puis il n'y aurait pas eu d'impartialité là-dedans. Ça, c'était très visible.
Ça, c'est déjà au départ?
Au départ.
Ouais. Et là, vous arrivez avec des preuves à l'appui, vous donnez des preuves et tout, et le régisseur n'avait pas l'air de vouloir lire ou de prendre connaissance des études que mon
cette décision était déjà faite, d'après moi.
Vous voulez dire que l'autre partie, il disait des choses sans appuyer aucune preuve.
Puis il a menti à propos d'envoyer des lettres par recommandé. Puis il n'a jamais été demandé de montrer quelques preuves, aucune preuve. Oui. Sa parole était prise là comme... il était infaillible. Il ne pouvait pas mentir.
Oui.
Mais il n'y a rien qui a été prouvé. Sa parole était... plus important que la note, mais même pas le fait que notre parole, on avait des documents, là, un rapport complet, puis avec des preuves qu'on a suivi toutes les étapes, les règlements qui étaient obligés par le régime du logement. Toutes ces choses-là, c'est comme...
Ignorer complètement.
Ignorer complètement. Même le premier de vérifier ce qu'on a dit, puis les documents après l'audience, même pas ça, ça n'a jamais été mentionné sur la décision de le régisseur. C'était comme un kangaroo court. Là. C'était le régisseur, c'était juste à lui, il faisait les décisions basées sur ses propres désirs. T'sais, il n'y avait pas besoin d'aucune preuve de personne.
C'est ça.
C'était pas vraiment la justice.
C'est ça.
J'ai sorti de là le genre, en disant que...
Vous êtes dégoûté de ça?
Dégoûté.
Là,
ça, ouais. Moi, j'ai dit, j'aurais jamais cru que ça aurait pu être si malhonnête.
À ce point-là.
Ouais. Puis même aujourd'hui, 4 ans après, là, j'en reviens pas. Je peux pas croire qu'il y a un système qui n'a pas de check puis balance pour être certain qu'on peut éviter ces injustices-là. Ouais, ouais, ouais. Même si on se rend compte, il y a des recours. Non! Non, ça continue, puis ça continue, puis ça n'a pas l'air qu'il n'y a aucune façon de mettre ça en règle. C'est un cauchemar.
Vous sentez invulnérable, vous sentez impuissant devant ce système-là.
Oui, puis ils sont très polis, très gentils, ils te donnent même l'air de semblance qu'ils font leur travail.
Oui.
Mais ils ignorent tous les faits. Ils font à leur tête, ils choisissent quel point appuyer. C'est comme tes mains sont liées puis t'es frustré.
Exactement, parce que j'ai un dossier devant moi aussi là que je vous ai bien souligné aux auditeurs tantôt. Comme quoi,
jusqu'à date, ça m'a coûté plus que 10 000 $, puis encore, il n'y a aucune sens. J'ai allé en appel, j'ai été en rétractation du jugement. Ça finit jamais.
Fou. Alors, je pense, chers auditeurs, on va juste faire une petite pause et puis on va revenir justement avec la porte-parole, Madame Maud Bégin, Godette, pardon, porte-parole du regroupement des comités de logement et associations des locataires du Québec. Elle va nous parler un petit peu de ce dossier noir, hein, parce qu'on parle d'un dossier noir contre la régie de logement. On va voir sa réaction. Alors, restez à l'écoute pour avoir la version de Madame Godette. Alors, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, alors le Québec. Et notre sujet d'aujourd'hui, il est vraiment... Les injustices et les abus de pouvoir derrière les murs de la régie de logement. Les régisseurs font honte à la fonction de la justice au Québec. Et j'ai directement on a en ligne directement Madame Maudé Bégin Godette. Elle est porte-parole du regroupement du comité de logement et association de locataires du Québec. Bonjour Madame Godette.
Bonjour
Madame Godette, merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur ce plateau-là. Alors, premièrement, vous êtes porte-parole du regroupement du comité de logement et association des locataires du Québec. Quelques mots pour peut-être sur ce regroupement?
Oui, en fait, le regroupement des comités de logement, c'est un regroupement national qui regroupe 49 comités de logement répartis un peu partout sur le territoire québécois. Et on a pour mission de défendre et de représenter les ménages locataires, en particulier les ménages les plus démunis, et faire avancer le droit au logement.
Alors, vous êtes nombreux, j'imagine. Pouvez aussi nous parler de cette directement, peut-être cette il y a une attente interminable des locataires pour avoir accès à une audience devant la régie de logement.
Oui, écoutez, c'est un problème qu'on dénonce depuis vraiment longtemps et c'est un problème d'accès grave à la justice pour les locataires. En fait, les délais à la régie sont complètement hors de contrôle, ça n'a aucun bon sens. Donc, en ce moment, les délais, là, c'est autour de 21 mois. Donc, c'est pratiquement 2 ans là, pour les causes civiles générales. Donc, quand on subit des problèmes d'insalubrité, par exemple, on peut attendre jusqu'à 2 mois pour avoir une audience devant la régie du logement, ce qui est complètement aberrant, surtout quand on le met en opposition au délai des propriétaires, en fait, pour les causes en non-paiement, qui, eux, sont de 1,5 mois. Donc, on dénonce vraiment cette politique du deux poids, deux mesures, où vraiment, là, la régie trouve plus acceptable qu'un locataire vit dans un logement qui met en danger sa santé et sa sécurité plutôt que de met en avant en fait le droit propriétaire à avoir des sommes d'argent dans ses poches. Donc c'est comme si la régie du logement était une agence de recouvrement dans ces conditions-là.
Okay. Oui, mais Madame Godette, la totalité des organismes qui œuvrent justement pour la défense des droits des locataires partagent les mêmes soucis, hein, le déni de l'arbitraire au sein de la régie du logement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos?
Oui, en fait, on constate qu'il y a vraiment une politique du deux poids deux mesures, donc que vraiment il y a vraiment la régie agit en faveur des propriétaires à divers moments. Donc, par exemple, quand vient le temps d'avoir de l'information pour les locataires, c'est assez hermétique ce que la régie donne. En fait, quand on se présente à la régie pour avoir de l'information avec le préposé à l'accueil, si on appelle à deux moments différents ou si on rencontre deux personnes à l'accueil différentes, on va avoir de l'information différente. Donc, c'est quand même pas évident de se retrouver parmi les lois et les règlements de la régie. Au niveau du travail des régisseurs, c'est un peu la même chose. Hein. Ce qu'on constate, c'est que souvent, les propriétaires, eux, peuvent se permettre d'être représentés par avocat, ce qui n'est pas le cas des locataires. Et à ce moment-là, la régie, dans ses règlements, a un devoir d'assistance d'aider les locataires à se défendre eux-mêmes et avoir une certaine ouverture, patience et compassion et même d'orienter les locataires au niveau à se dépatouiller dans le droit. Et ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas le cas du tout. Quand les locataires, des fois, arrive un peu avec un discours décousu où c'est plus difficile parce qu'ils ne comprennent pas les procédures qui sont très, très, très hermétiques parce qu'elles n'ont pas l'aide d'avocats. Ben le régisseur souvent est très sévère et très impatient et discrédite à plusieurs moments ce que les locataires disent parce qu'ils ne les trouvent pas sérieux. Mais en principe, la régie est un tribunal, en principe, accessible où les locataires devraient pouvoir se défendre eux-mêmes, mais ce n'est pas le cas du tout, donc c'est vraiment difficile.
Tout à fait. Mais Madame Godette, à travers, maintenant pour les plaintes, hein, le nombre des plaintes à travers les années, est-ce qu'il y a une diminution ou on parle du contraire?
En fait, au niveau des plaintes, dans le rapport de la régie du logement, dans les dernières années, le niveau de plaintes baisse, malheureusement. Mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des plaintes ou non, en bout de ligne, ça change pas grand-chose au niveau du travail de la régie. On peut très bien se plaindre. Là. En fait, c'est bien de dénoncer puis de se plaindre puis de dire que la régie ne fait pas son travail. C'est tout à fait correct. Mais je pense que les locataires sont un peu découragés puis même porter plainte, c'est... Probablement, ils savent pas qu'ils ont le droit de porter plainte. C'est souvent une chose là, que les groupes savent pas. Puis en fait, il y a un de nos comités logements qui, à travers une certaine période, avait une campagne où il donnait un numéro de téléphone aux locataires quand ils voulaient se plaindre contre les délais. Et cette année-là, clairement, là, les délais pour porter plainte de plainte sur les délais ont explosé. Je pense que c'est complètement lié à cette campagne-là qui avait été menée. Mais là, cette campagne-là a arrêté, donc on voit que le nombre de plaintes diminue. Mais peu importe le nombre de plaintes ou pas, le travail de la régie ne s'améliore pas malheureusement. Donc, je pense pas que le niveau de plainte soit lié aux insatisfactions des locataires qui, elles, sont grandissantes. Je pense que c'est juste une mesure qui est inconnue des locataires, à mon avis.
Exactement. Madame Godette aussi, parce qu'on sent que ces locataires-là, victimes, vulnérables, ils ont besoin de cet appui, de votre appui.
Oui. Oui, parce que évidemment, c'est difficile la régie du logement, c'est hermétique malgré qu'est-ce que la régie ose prétendre. Donc c'est pas évident. Alors quand on arrive à la régie du logement, il faut vraiment bien préparer son dossier. Hein. C'est quand même un tribunal, donc il y a un fardeau de preuves à monter et c'est pas évident de comprendre tout ça là-dedans. Donc c'est sûr que les locataires ont besoin de support, de soutien des comités de logement pour les aider à se représenter dans des audiences à la régie. C'est sûr que les comités de logement ont une expertise, une expérience, donc ils peuvent aider les locataires. Mais aussi, là, juste au niveau de l'information, parce que l'accès à la justice, là, ça se passe aussi en amont. C'est pas juste quand on est devant le régisseur, c'est en amont quand on va avoir de l'information, connaître nos droits, utiliser les bons recours à la régie du logement. Quand un locataire appelle à la régie du logement, il fait souvent erreur en erreur ou les services d'information ne donnent juste pas d'information et réfèrent au comité de logement. Donc, même la régie ne fait pas son travail. C'est sûr qu'un locataire qui veut avoir de l'information réaliste sur qu'est-ce qui se passe à la régie est mieux d'appeler à son comité de logement. Il va avoir de meilleures informations que le service d'information de la régie. C'est quand même tout à fait déplorable et c'est épouvantable. Donc, ça freine encore une fois l'accès à la justice des locataires.
Et pour les comités de logement, je pense qu'il y a assez, hein, quasiment dans chaque quartier, il y a un comité, si je ne me trompe pas, non?
Oui, en fait, Montréal est très bien couvert, les autres régions, en fait, c'est sûr que c'est difficile, on aimerait ça avoir des comités de logement vraiment partout au Québec, hein, c'est pas toujours possible, et des fois, il y a certaines municipalités qui auraient besoin d'avoir 2-3 comités de logement pour se répartir le territoire, parce qu'il y a beaucoup de locataires qui ont besoin de support, d'aide. Mais évidemment, dans le contexte actuel d'austérité, les groupes communautaires subissent également des coupures, puis d'ouvrir un comité de logement dans une région, c'est pas toujours facile. Donc, mais quand même, on couvre une bonne partie du territoire. On y en a quand même 49 au Québec, c'est quand même une bonne chose. Mais c'est sûr que si on est un locataire qui habite pas dans une région où il y a un comité de logement, il va pouvoir avoir le support d'un comité de logement qui est dans une région avoisinante. C'est sûr que il n'y a pas de dire de faire des choses au téléphone, mais oui, c'est sûr que les comités de logement ont à cœur le bien-être et la défense des droits des locataires, fait que c'est sûr qu'ils vont soulever mer et monde là, pour les défendre, c'est sûr et certain.
Madame Godette, permettez-moi aussi, vous êtes plusieurs organismes qui travaillent justement sur ce que vous appelez un dossier noir dans la régie de logement. Est-ce que les gens qui vous écoutent ce matin sont justement curieux de connaître de quoi il s'agit-il?
Bien sûr, en fait, ça fait plusieurs années qu'on constate des problèmes avec la régie du logement, hein. C'est pas nouveau. Déjà, en 1992, le RECLAC avait produit un document qui s'appelle la régie du logement, autopsie d'une fraude, où on faisait un bilan de qu'est-ce qui se passait au niveau de la régie. Et à ce moment-là, on avait découvert la politique du deux poids deux mesures, le travail bâclé des régisseurs et tout ça. Ça fait longtemps qu'on le sait. Il y a un rapport qui avait été remis, mais depuis ce temps-là, il y a encore d'autres situations qui continuent de se passer. Donc, on a senti le besoin, l'année passée, de commencer à monter un dossier noir sur la régie. Donc, ça, c'est plusieurs groupes, en fait, qui se sont mis ensemble. Donc, le regroupement des comités logements, des professeurs d'université, des comités logements qui se sont dit, là, ça n'a pas de bon sens. Il faut vraiment enquêter sur le travail que fait la régie du logement. Alors là, il y a une méthode. C'est plus juste des appréhensions ou des doutes ou des. On ne voit pas juste là-dessus. Là. Vraiment, on a une méthodologie assez serrée quand même où on a une grille d'observation. On va dans des audiences, examiner des audiences avec une grille précise. On fait des appels fictifs à la régie du logement pour évaluer la qualité de l'information qui est donnée. On passe aussi des questionnaires à travers les comités de logement pour connaître vraiment leur expérience avec la régie du logement. On demande aux locataires de nous témoigner des situations qu'on a vécues à la régie du logement. Donc, on compile toutes ces informations-là dans le but de produire un dossier noir sur la situation à la régie du logement pour dénoncer les problèmes avec vraiment des faits solides et mettre des recommandations et continuer la lutte, hein, parce que la lutte est toujours présente. On est toujours en train de demander à la régie de mieux faire son travail. Et cette semaine, là-dessus, on avait une manifestation devant les bureaux de la régie du logement. Il y en a eu 4 municipalités qui ont participé, Montréal, Québec, Valleyfield et Rouyn-Noranda. Donc, il y a eu des actions devant les bureaux de la régie du logement dans 4 municipalités. Et ce qu'on a dénoncé, cette politique du deux poids, deux mesures et le problème d'accès à la justice, est tout à fait lié avec ce qu'on constate quand on accumule nos données pour notre fameux dossier noir. Puis juste pour dire que ce fameux dossier noir-là va sortir à l'automne 2015. Il va y avoir un lancement et on va taper fort sur la régie comme on le fait tout le temps depuis vraiment beaucoup d'années.
Madame Godette, vous parlez de dossier noir. Est-ce que c'est, on parle de mémoire?
Ça va ressembler à mémoire, en fait. C'est sûr que ça va être un document... C'est comme un document de recherche. On ne sait pas encore exactement la forme que ça va prendre, oui. Mais c'est sûr qu'à l'issue de ce document-là, qui risque d'être assez dense, on va sortir des outils d'éducation populaire pour vraiment bien renseigner la population sur qu'est-ce qui se passe, puis donc réclamer des actions. Mais ça va être un document écrit, dense, fait en collaboration avec des profs universitaires. Donc, évidemment, ça va être un document assez bien étoffé.
Et ce, pensez-vous qu'il va être, déposé à l'Assemblée nationale?
C'est pas dans nos premières idées, c'est pas de le déposer pour l'instant à l'Assemblée nationale, mais c'est sûr que si, évidemment, il y a une réforme de la régie ou quoi que ce soit, c'est sûr que les éléments dans le dossier noir alimentent toujours notre discours quand vient le temps de faire des représentations au niveau du gouvernement ou d'aller en commission parlementaire s'il y a lieu. Mais c'est sûr que on va aller rencontrer, essayer d'aller rencontrer le ministre responsable de l'habitation, Pierre Moreau, la régie du logement également. Donc, c'est le genre d'outils qu'on a pour faire de la représentation politique puis appuyer nos dires sur des données solides. Fait que c'est certain que ça va se rendre aux oreilles du politique, bien évidemment.
Madame Godette, peut-être une avant-dernière question pour les gens qui vous écoutent aussi. On parle de l'arbitraire des régisseurs. Il y a aussi le conseil de la justice administrative. On constate aussi qu'il y a très peu de plaintes logées à ce niveau-là. Avez-vous une explication?
Excellente question. Encore une fois, je crois que ce serait par manque d'informations ou souvent les locataires, hein, après des longues démarches, ils sont tannés, ils sont irrités, ils en ont marre. Surtout que les délais à la régie, juste les délais, en fait, là, ça rebute beaucoup de locataires à intenter des recours à la régie du logement. Hein. Il y en a beaucoup qui disent « Non, écoutez-moi, à attendre 2 ans pour une situation, je peux pas, tu sais, c'est trop dur pour moi, je serais pas capable, ça n'a juste pas de bon sens, ça va être trop long avant d'avoir justice. » Et là, quand on veut porter plainte devant le conseil de la justice administrative, c'est une étape de plus, c'est encore... faut vraiment être motivé, hein. Il y en a qui le sont, puis qui vont jusqu'au bout, puis quand ça arrive, on est content parce que ça permet de dénoncer des situations, puis après ça, d'améliorer le travail de la régie, tu sais. Mais... c'est sûr qu'au quotidien, de demander à des locataires qui vivent dans des situations de logement qui n'ont pas de bon sens, ça affecte la santé physique et mentale, c'est une grosse démarche, tu sais. Je pense que c'est complètement lié à ça, tu sais.
Oui. Mais Madame Godette, pour les gens qui vous écoutent ce matin, quel est le conseil que vous pouvez donner ce matin-là?
Ben écoutez, de bien s'informer sur ses droits, de consulter son comité logement si on vit une situation difficile, malgré les délais, de porter plainte à la régie parce que on doit rééquilibrer la balance, hein, quand on vit une situation d'injustice, c'est important de le dénoncer, de faire valoir. On a des droits, il faut les faire valoir, c'est important, c'est une question de justice, puis se loger, c'est un droit. On a droit à un logement sain, accessible, bon marché et sécuritaire, et il faut apporter ces données-là aux instances qui nous représentent. Donc, la régie du logement est une structure. Il faut continuer à pousser, à se mobiliser pour les choses changent et que la régie fasse mieux son travail. Donc, de s'impliquer dans son comité logement, de venir au manif, c'est une autre façon de faire. Donc, de ne pas lâcher malgré tout parce que se loger adéquatement, c'est un droit et il faut le protéger.
De ne pas lâcher, c'est le mot qu'on cherchait. Alors, Madame Maud Bégin-Codette, porte-parole du regroupement du comité de logement des associations de locataires du Québec. On vous dit merci d'avoir témoigné sur ce plateau ce matin.
Merci à vous.
Merci, une belle journée. Merci, madame. Au revoir.
Au revoir.
Alors, chères auditrices, chers auditeurs, on va juste peut-être faire une petite pause musicale. On va écouter aussi une autre, madame Paul, je pense, l'Espérance, qui est du comité de logement du plateau. Elle va aussi, on va écouter aussi sa réaction. Alors, restez à l'écoute. Thank you. Alors voilà, bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et aujourd'hui, le sujet, c'est justement les injustices et les abus de pouvoir derrière les murs de la régie de logement. Les régisseurs font honte à la fonction de la justice au Québec. Alors, on va écouter maintenant la réaction de Mme Paul L'Espérance. Elle est du comité de logement du plateau.
Oui, bonjour Madame Paul L'Espérance.
Oui, bonjour.
Vous êtes organisatrice communautaire du comité de logement du plateau.
Oui, tout à fait.
Excellent. Est-ce qu'on peut savoir, Madame, selon vous, là, parce que semble-t-il qu'on a reçu il y a beaucoup de plaintes, combien les gens ne sont pas satisfaits, en particulier des régions de logement, des régisseurs et tout, est-ce que vous avez une réaction particulière?
Oui, ben en fait, nous, au comité logement, on reçoit quotidiennement des locataires qui ont des problèmes de logement, des litiges, des problèmes avec leurs propriétaires. Et notre rôle, c'est de les informer sur leurs droits, leurs recours. Et on va souvent faire un suivi jusqu'à l'audience à la régie du logement et même après. Et effectivement, ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a vraiment des gros problèmes de fonctionnement à la régie du logement. Je peux nommer d'abord la question des délais avant de passer en audience à la régie qui sont tout simplement interminables et scandaleux. Pour nous, ça représente vraiment c'est un déni de justice là, de devoir attendre en moyenne 2 ans avant d'être entendu quand on a un problème de salubrité dans son logement. Vraiment, je veux dire surtout que, enfin, quand les baux durent, ont une durée de 12 mois, hein, alors quand la régie du logement entend la cause 2 ans plus tard, ben souvent, c'est trop tard.
Hein. Vous avez même, Madame L'Espérance, vous avez même souligné comme quoi environ 2 ans, ça veut dire on peut aller jusqu'à 3 ans et même plus.
Oui, mais c'est une moyenne, en fait. À chaque année, la régie du logement, on reçoit des statistiques sur les causes et donc, ils font des moyennes. Alors, ben, c'est ça, un dossier qui est ouvert par un locataire, ça prend en moyenne c'est 21 mois en fait avant qu'il soit entendu.
Alors, Madame L'Espérance, une attente de 2 ans ou même plus, et une fois être devant le régisseur, malheureusement, des fois ça tourne par rond, quoi.
Oui, absolument, tout à fait. Ça aussi, c'est un gros problème. Les locataires ont souvent l'impression que le régisseur ne les écoute pas, a un parti pris. Des fois, ça se déroule très, très rapidement.
Un mépris, tu veux dire?
Oui, un certain... Oui, tout à fait. Un certain mépris pour les locataires qui souvent arrivent et se représentent eux-mêmes. Ils sont souvent pas représentés par un avocat parce que ça coûte cher et ils n'ont souvent pas les moyens d'embaucher un avocat. Donc, comme ils ne sont pas nécessairement des experts là, des procédures, ben vraiment, ils sont reçus avec impatience. Et on trouve que, en fait, les régisseurs, ils ont une obligation de porter secours au parti devant lui. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont supposés d'aider les gens qui se présentent devant eux à présenter leurs preuves quand ils ne sont pas familiers avec le système de justice. Et on a vraiment l'impression que cette obligation-là de porter secours là, n'est pas remplie dans plusieurs cas. Il y a plusieurs, vous illustrer. On a eu une histoire de, en fait, un le locataire se faisait évincer par son propriétaire. Son propriétaire alléguait qu'il voulait transformer, qu'il voulait agrandir son logement, et donc il lui envoyait un avis d'éviction. Le locataire s'est rendu compte que le propriétaire était un spéculateur immobilier et qu'il avait à maintes et maintes reprises en fait utilisé le recours d'éviction sans avoir l'intention réelle de faire l'agrandissement, dans le fond de faire ce qu'il disait qu'il voulait faire, mais plutôt de transformer les logements en condos, ce qui est tout à fait illégal. Et le locataire a vraiment monté toute une preuve pour démontrer que le propriétaire était, était de mauvaise foi, et le régisseur n'a rien voulu entendre. Il n'a même pas voulu entendre la preuve, et il lui a dit: ah ben vous savez monsieur, moi j'accorde des évictions pour pas mal moins que ça, alors retournez chez vous. Et puis bon, voilà, il a perdu. Il y a vraiment un mépris là. C'est comme si les demandes des propriétaires étaient passées beaucoup mieux.
Madame Espérance, pour les gens qui vous écoutent ce matin, et surtout pour les victimes, hein, contre des régisseurs comme ça, dans le refus de logement, est-ce que vous avez-vous un mot d'encouragement?
Oui. Ben en fait, je pourrais dire c'est vraiment important de se renseigner sur ses droits et de les faire valoir aussi. Parce que premièrement, il faut faire valoir ses droits. Si on se décourage puis qu'on se dit ça vaut pas la peine, ben c'est sûr que nos droits vont être bafoués. Et sinon, ben j'inviterais les gens à venir dans les comités logement dans les comités logement de leur quartier pour s'informer sur les droits, puis aussi peut-être de s'impliquer. Nous, on a avec notre regroupement national, le regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, on mène une campagne, là, on est en train de monter un dossier noir sur ce qui se passe à la régie du logement. On essaie de recueillir le plus de témoignages possible, et on va en parler et on va essayer de faire changer les choses, là, qu'il y ait vraiment un redressement là, de la régie du logement pour qu'elle se centre sur sa mission principale qui est d'être juste et impartial.
Exact. Madame Espérance, vous avez parlé d'un dossier noir. Est-ce que vous arrivez vous êtes arrivé déjà dans le passé d'envoyer des plaintes contre des régisseurs ou non?
Mais c'est sûr que c'est possible de porter plainte à la régie du logement. Il y a une procédure d'appel aussi dans certains cas particuliers, mais il faut justement que les locataires soient prêts à aller jusque-là. Puis ce qu'on remarque, c'est que souvent, ben une fois que on fait face à une décision négative de la régie du logement, ça prend beaucoup d'énergie se défendre et là faire un appel, faire une plainte. Souvent les locataires doivent quand ils se font mettre dehors, ils doivent se chercher un nouveau logement, déménager, tout ça. Alors ben très souvent ils finissent par tourner la page. Alors c'est pour ça que nous aussi on est là, les comités logement, pour faire entendre leur voix. Là.
C'était Madame Paul L'Espérance, organisatrice communautaire du comité logement du plateau. Je vous remercie beaucoup, Madame Paul.
Merci beaucoup.
Excellent, au revoir.
Au revoir.
Alors voilà donc, chère autrice, j'étais vraiment Madame Paul L'Espérance qui était des comités de logement du plateau. Et juste pour vous dire que on a fait un petit peu le tour, presque le tour, et la plupart du comité de logement partagent le même souci. Alors je reviens maintenant à mon invité ce matin. Vous avez entendu comme quoi il s'agit d'un dossier noir, donc vous n'êtes pas le seul dans le sac là, dans le panier là.
D'après ce que je vois, non, mais ça me console un peu, mais pas vraiment beaucoup, parce que après, moi, ça fait 4 ans que je me batte là-dedans, puis j'ai vu la non-égalité dans le système. Quand le locataire m'a amené devant le juge du logement,
le propriétaire,
ça lui a pris 2 semaines pour avoir son audience, puis une autre 2 semaines pour que le régisseur me condamne à plus que le propriétaire voulait. Oui. Le propriétaire voulait un mois de pénalité, puis le régisseur m'a donné 3 mois. Puis dans l'espace de 5 semaines, tout a été réglé. Puis moi, ça fait 4 ans que j'attends pour essayer de récupérer le fait que moi, j'ai déménagé 2 fois dans 3 mois.
Oui.
2 déménagements, camion, personne engagée pour faire le déménagement. Monter 2 maisons, c'est l'enfer. Oui. Puis c'est pas fini encore. C'est pas fini encore. Là j'espère qu'à un certain point...
Mais c'est pas encore fini, hein?
Non, c'est pas encore fini. Puis on parle de mon argent, là, ça m'a coûté jusqu'à date avec les rétractations, les audiences, aller en appel, c'est 10 000 $ et plus.
Ça, c'est
de l'argent vraiment pour une personne qui n'est pas riche.
Oui.
Tu sais? Mais moi, c'est le principe. Je défends le principe. Le monde,
tout cet argent-là pour le principe.
C'est ça.
Oui.
Aussi, je ne suis pas altruiste au point, mais c'est aussi pour le fait que je me sentais vraiment maltraité.
Oui.
Mes droits ont
maltraité
été...
Maltraité
par le système. Le système
a compris. En particulier au régisseur.
En particulier le régisseur.
Hein.
C'est pas injuste qu'il a pris au commencement. Ne peuvent jamais être refaites d'après ce que je vois.
Ouais.
Il y a des façons dans la loi mais on rencontre un autre régisseur qui le connaît, qui veut pas lui faire de tort.
Ouais.
Puis c'est toute une fabrication, une imagination. C'est clair, c'est noir et blanc. La place n'est pas vivable. On a le droit de s'en aller. J'ai fait une inspection. J'ai pris tous les étapes possibles. J'ai été très, très diligent dans mes choses.
Et vous avez rencontré, M. Vincent, vous avez rencontré quand même des avocats.
Oui.
Vous avez expliqué c'était quoi la réaction des avocats.
Les autres aussi, ils disent, je comprends pas.
Oui, c'est très difficile.
Je comprends pas. Ils disent,
Est-ce que vous êtes découragé ce matin?
Beaucoup.
Découragé, c'est ça.
Mais j'abandonne pas.
Ouais, exactement.
Non, ça, c'est le principe. Moi, je le fais pas juste pour moi. Il y a d'autres personnes aussi qui comptent dans la société.
Ouais, exactement. C'est bien dit aussi parce que les gens qui nous écoutent ce matin, il faut pas se décourager.
Ils comptent sur le fait que tu vas
pas. Il faut vraiment pas se décourager. Il faut continuer et un jour, c'est sûr et certain, ça peut se rétablir. Alors, chère auditrice, chers auditeurs, juste pour vous dire, j'aimerais bien remercier Madame Maude Bégin-Godette. Elle est porte-parole du regroupement du comité de logement, ainsi que Mme Paul Espérance pour l'avoir témoigné sur ce plateau ce matin. Je remercie aussi Miguel de Radio Centre-Ville d'avoir veillé sur le son. Je remercie Vincent d'avoir accepté de témoigner aussi à son tour. Et je vous dis, on vous donnera un autre rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre émission contre les abus de pouvoir, contre les injustices au Québec. Et en espérant toujours qu'à travers ces mots-là, on arrive à combattre l'injustice. Au revoir.
Tirage du loto 649, il y a un billet parmi tous les billets qui va valoir 1 million de dollars garanti. Et ça, c'est en plus du gros lot qui est évalué à 20 millions.
culturel du 19 au 29 mars, la 33e édition du FIFA Festival International du Film sur l'Art présente 243 films de 29 pays. En tout, 14 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir des œuvres filmiques de haut calibre, toutes disciplines artistiques confondues. Art contemporain, musique, architecture, danse, littérature, cinéma et plus vous attendent. Une série d'expositions, rencontres et événements spéciaux aussi à ne pas manquer. Consultez le www.artfifa.com ou rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.